Je vous propose aujourd'hui l'analyse linéaire du texte numéro 1 de la princesse de Clèves, qui est le texte 6 pour la liste de Bach. Il s'agit du portrait de la princesse de Clèves qui s'appelle, dans l'extrait, Mademoiselle de Chartres, puisqu'elle n'est pas encore mariée. Je vous laisse faire une présentation générale du roman La princesse de Clèves. Il faudrait préciser qu'il s'agit d'un roman d'analyse psychologique qui fait partie des romans du mouvement classicisme. Et je vous laisse présenter également rapidement Madame de Lafayette, qui est l'auteur du livre. Vous pouvez vous référer pour cela au cours. Alors, si on situe maintenant le passage de façon plus précise, donc ce texte, le portrait de Mademoiselle de Chartres, est situé dans la première partie du roman. Le début du roman, en fait, présente la cour et on a une succession de portraits des grands personnages de la cour, les femmes et les hommes, qui sont présentés sous un jour très avantageux avec beaucoup d'hyperbole. Le portrait de la princesse de Clèves clôture en fait cette présentation des personnages et marque le début du récit. On sait donc qu'elle va être l'héroïne parce que son portrait est le plus développé et parce qu'elle possède des qualités d'emblée exceptionnelles. Ce texte est assez conventionnel, mais on peut remarquer également qu'une grande partie de ce portrait est consacrée en réalité à l'éducation qu'a pu recevoir Mademoiselle de Chartres. Nous allons donc nous demander en quoi ce portrait est le portrait d'un personnage qui va représenter l'incarnation de l'honnête femme, en quoi en fait s'agit-il du portrait de l'idéal de cette honnête femme. Le texte se divise en deux parties. Tout d'abord, une description sous différents aspects de la princesse de Clèves, physique et puis sociale, des aspects physiques et sociaux. Et puis ensuite, une deuxième partie qui est consacrée à partir de la ligne 8 jusqu'à la fin du texte à l'éducation qui a été donnée à Mademoiselle de Chartres. Ligne 1. On remarque tout d'abord l'utilisation du passé simple. Il parut qu'il marque une rupture par rapport à l'imparfait qui était employé juste avant ce passage pour la description des personnages. Ce passé simple en fait met en début de paragraphe en valeur l'arrivée de l'héroïne par cette rupture temporelle. On est dans un univers un peu de conte de fées. L'action vient de commencer comme dans les contes de fées. Mademoiselle de Chartres est désignée par une périphrase, une beauté à la cour, ou plus exactement une métonymie. Elle n'est pas désignée de façon précise et individuelle, mais elle est placée dans une catégorie, celle des beautés. On peut noter, toujours à la ligne 1, mais également dans les lignes suivantes, le champ lexical de la vision, avec yeux, voir, et ensuite admiration, qui vient du latin mirare. Ce champ lexical de la vision montre que la princesse de Clèves est l'objet de tous les regards dès son arrivée à la cour. Ce regard en fait perpétuel posé sur elle va être extrêmement pesant. Et c'est un regard social qui permet aussi au lecteur en fait de voir Mademoiselle de Chartres par le regard que l'on porte sur elle à travers les yeux de la cour. Autrement dit, le lecteur n'a pas accès à Mademoiselle de Chartres sinon par ce que peut en penser la cour. Cette cour est présente de façon répétée dans les premières lignes du texte. Ligne 1, tout le monde. Ligne 2, un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Le « on » fait référence ici aux personnes qui composent la cour. L'expression « beauté parfaite » consacre en fait un archétype. On n'a pas de description physique précise de la princesse de Clèves, mais ici, on est plutôt dans l'abstraction et il faut se référer au canon de l'époque. Une beauté idéale était une femme qui avait des traits réguliers et qui était blonde. Mademoiselle de Chartres est présentée d'emblée sous l'aspect du superlatif avec l'adjectif parfait et avec également l'expression un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. On a ensuite une précision qui va être de l'ordre de sa position sociale. Donc on sait qu'elle est une des plus grandes lignes 4 héritières de France. Donc en fait, elle arrive à la cour pour être mariée et elle est en position sociale avantageuse pour cela. Et on a également quelques éclaircissements sur le cadre familial dans lequel elle a évolué, puisqu'on nous précise à la ligne 6 que Mademoiselle de Chartres est une orpheline, puisque sa mère a perdu son mari. Précision aussi, elle a passé plusieurs années sans revenir à la cour. On peut remarquer, je reviens un petit peu en arrière, que... En fait, dès la ligne 5, la mère de l'héroïne, Madame de Chartres, va prendre de l'importance puisqu'elle est également décrite sous un aspect moral, bien vertu et mérite, était extraordinaire, et sous un aspect aussi hyperbolique avec l'adjectif extraordinaire, qui est un adjectif très fort. On passe ensuite au second paragraphe qui va développer en fait cette importance de la mère de la princesse qui va montrer que la princesse en fait a reçu une formation féminine. On peut rappeler qu'il s'agit d'un roman qui est écrit par une femme et qui a pour personnage principal une héroïne. Donc on remarque que en fait, de façon paradoxale, cette mère qui prend de l'importance dessine d'elle-même, enfin la narratrice dessine de cette mère un portrait en creux, un portrait sous-jacent à travers l'éducation qu'elle peut donner à sa fille. Alors, on peut remarquer donc que Madame de Chartres donne beaucoup d'importance à l'éducation. On peut relever par exemple à la ligne 9, elle avait donné ses soins et qu'elle a vraiment réfléchi à cette éducation. C'était ligne 8, elle avait donné ses soins, ligne 9, elle songea aussi. La narratrice met en valeur la singularité de l'éducation qu'a reçue Mademoiselle de Chartres, puisque elle a reçu une éducation classique. Il s'agit à la ligne 9 de cultiver son esprit et sa beauté. Mais la particularité de cette éducation, c'est que ligne 10, Madame de Chartres a enseigné la vertu, qui est un mot-clé du texte, à définir à sa fille, mais qu'elle a également cherchait à la lui rendre aimable, c'est-à-dire qu'elle ne lui a pas seulement inculqué la vertu, mais elle la lui fait apprécier, et donc elle peut espérer que Mademoiselle de Chartres va être heureuse d'adopter un comportement vertueux. La suite du texte devra confirmer cette hypothèse. On peut remarquer également, à partir de la ligne 10, que la mère a donné une éducation qui est différente de celle des autres femmes. On a la tournure, la plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie. Donc on a une tournure généralisante avec la plupart et avec le verbe au présent de vérité générale s'imagine et le pluriel de mère. Et la singularité de cette éducation réside dans le fait que Madame de Chartres en fait, a fait connaître la notion de galanterie, ligne 11, à Mademoiselle de Chartres. Il faut définir la galanterie comme une pratique répandue à la cour qui vise, qui entérine en fait, le fait de se montrer galant, courtois, de courtiser les femmes dans un jeu de badinage. Le texte ensuite est articulé à partir d'une très longue phrase qui va accumuler les propositions qui sont juxtaposées. Et en fait, il faut rechercher la structure de cette phrase dans des oppositions qui sont récurrentes dans le texte, entre d'une part l'opinion commune ou l'éducation commune, et d'autre part l'éducation que Madame de Chartres donne à sa fille. On peut remarquer donc qu'elle n'élude pas le sujet de l'amour. Ligne 12-13, elle faisait souvent à sa fille des portraits de l'amour. Donc on a une éducation qui insiste sur cet aspect-là. Et on peut remarquer dans le texte une construction en antithèse à la ligne 13. L'amour est agréable, ligne 14, il est dangereux. Et donc on a en fait en permanence deux postures opposées par rapport à l'amour qui sont proposées à Mademoiselle de Chartres et qui vont lui permettre en fait de se déterminer, lui laisser la liberté de se déterminer par rapport à cette notion d'amour. Cela dit, on remarquera que Madame de Chartres insiste davantage sur les dangers de l'amour avec l'expression « la persuader plus aisément ». On remarque aussi dans l'enseignement qu'elle lui donne au sujet des hommes, une accumulation de noms qui sont des noms péjoratifs, et qui concerne le champ lexical de l'honnêteté, peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, ligne 14-15. Malheur domestique aussi qui va concerner ce comportement supposé galant des hommes. Et à partir de la ligne 16, en contrepartie, pour balancer cet avis négatif sur les hommes, on va avoir un champ lexical mélioratif, celui qui va concerner la conduite vertueuse. La vertu donnait d'éclat. Combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Hein, on est à nouveau dans le registre du superlatif. Donc en fait, cette opposition, qui est sans doute proposée dans l'éducation que donne Madame de Chartres à sa fille, permet en fait de faire pencher la balance du côté du comportement vertueux et inculque en fait dès son plus jeune âge à la princesse une méfiance vis-à-vis des hommes qui sont présentés comme séducteurs mais trompeurs. On remarquera également que la princesse de Clèves, ligne 16-17, possède des qualités qui lui sont propres de la naissance, de la beauté de la naissance. Il faut comprendre naissance comme étant originaire d'une famille réputée, mais qu'elle se doit, par un effort sur elle-même, de ne pas se reposer sur ses acquis, mais d'essayer d'acquérir de la vertu. Donc il s'agit en fait d'une éducation exigeante que donne Madame de Chartres à sa fille. Et enfin, dans les dernières lignes du texte, on va avoir en fait une formulation implicite de la doctrine janséniste qui vise à avoir une grande défiance vis-à-vis de soi-même, à s'examiner, à faire des examens de conscience assez fréquents, ce que l'on trouve beaucoup dans le texte, parce que pour les jansénistes, l'homme est corrompu par essence et parce qu'il faut ne pas être dupe de soi-même. On retrouve donc cette doctrine janséniste exprimée à la ligne 19. Il était difficile de conserver cette vertu par une extrême défiance de soi-même, un grand soin de s'attacher à ce qui peut faire le bonheur d'une femme. Enfin, à la ligne 20, on va avoir une tournure un peu paradoxale puisque Madame de Chartres définit le bonheur de la femme par le fait d'aimer son mari et d'en être aimée. Il s'agit en fait d'une tournure un peu paradoxale puisque auparavant, Madame de Chartres a enseigné à sa fille la défiance des hommes et qu'il paraît difficile en fait que Mademoiselle de Chartres puisse aimer son mari sans se mettre en retrait ou chercher en fait à éviter l'amour en lui-même, le danger est qu'elle confonde amour et séduction. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que on a donc ici un portrait de l'héroïne qui est un portrait le portrait d'un être exceptionnel par ses qualités propres, mais aussi par l'éducation qu'elle a reçue. Pour répondre à la problématique posée en introduction et qui était de savoir si le portrait de Mademoiselle de Chartres correspond à celui de l'honnête femme du XVIIe siècle. Oui, puisqu'elle incarne vraiment l'idéal de ce XVIIe, elle a des qualités personnelles indéniables et qu'en plus elle va pratiquer la vertu et la bienséance. Mais on peut essayer de montrer que cette éducation va au-delà de ce portrait, puisqu'en fait elle a été initiée à la thématique de l'amour et que cette initiation va bien au-delà de l'éducation traditionnelle que l'on donnait aux filles à cette époque. C'est justement dans ce dépassement des limites que le lecteur va pouvoir se poser la question de la suite des aventures de l'héroïne, puisque on peut se demander ce que cette jeune fille qui vient à la cour pour se marier va pouvoir obtenir dans la suite de son destin et obtenir en particulier dans ses relations amoureuses.